C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Je finissais mes études et je cherchais du travail en tant que musicien, en tant que professionnel. Et j'ai vu une annonce, c'était marqué donc, dans un magasin de musique à Nantes, conteur cherche musicien pour accompagner sur spectacle. Et je téléphone et la personne en face,
sur
Jérôme Aubineau, que tu connais bien. Et voilà, première rencontre avec le monde du conte. Il est venu à la maison. Moi, c'est vrai que je suis pas du tout forcément les histoires on m'en a raconté, etc. Mais j'étais pas baigné, dans ce monde-là. Et je vois un gars arriver chez moi. Je me souviens dans mon petit appartement, un Jérôme tout gentil. Bon.
Les conteurs sont gentils d'habitude.
Oui. Mais c'est vrai que tout bêtement, je m'attendais à un peu comme un acteur qui a une aura, enfin, etc. Et non, je vois un gars débarquer comme
plutôt
ça.
Plutôt tranquille, et puis...
Et du coup, il s'assoit dans le salon, et puis il me dit, le plus simple, c'est que je te raconte une histoire. Et là...
Ah ouais.
Ouais. Et là, ouais, vraiment une rencontre humaine, et puis une rencontre avec des histoires, et puis des histoires qu'on peut raconter à des adultes. Une vision, une rentrée dans le monde du conte que je ne connaissais pas à l'époque.
Donc, pour le coup, tu as flashé. Cette histoire-là t'a beaucoup plu et tu as travaillé avec lui. Tu as travaillé avec lui longtemps
On a travaillé ensemble, je dirais, 3 ans, je crois. 3-4 ans. On a tourné un peu partout, en France, en Suisse. Et donc, ouais, une belle rencontre et puis de beaux spectacles avec lui sur les routes. École Jacques Prévert, j'écoute. Oui, c'est moi le directeur. Ah, bonsoir monsieur. Non, ne vous inquiétez pas. Léo est avec moi, dans mon bureau, oui. Oui. Ah bon. Léo, 8 ans, est assis près du mur dans le bureau du directeur. Il attend. Il attend sa mère. Tous les autres sont déjà partis depuis bien longtemps, mais lui, il attend. Cheville croisée, mains qui s'entremêlent, sa tête est tournée vers la droite. Il fixe la fenêtre. Il espère apercevoir une silhouette. Rien. Juste un oiseau posé sur une branche. En face, t'as le directeur. Il est installé à son bureau et jette des coups d'œil discrets vers Léo tout en cherchant quelque chose dans ses affaires. À gauche, l'horloge indique 18h50. Léo commence à avoir faim. Et juste derrière, accroché sur le mur, il y a toutes les photos de classe. Léo cherche la sienne. Ça y est, il a trouvé. Il regarde toute cette tête qu'il connaît. Henriette. Oui, Henriette et sa mère vache. Ah bah, la seule chose que sait faire la mère d'Henriette, c'est de ruminer, de mâchouiller son chewing-gum à longueur de journée. C'est pas n'importe quel chewing-gum. Dans leur famille, il se transmet de mère en fille, de génération en génération. Le père d'Henriette dit que c'est pas ça du tout. Lui, il dit que c'est simplement le cerveau de sa femme qui est tombé dans sa bouche et depuis elle le mâche. Lucas, avec ses mains cachées dans ses poches, comme d'habitude. En même temps, la mère de Lucas n'arrête pas de répéter que son fils est tellement mignon qu'elle a envie de le croquer. Si ça se trouve, c'est une véritable ogresse. Alors Lucas, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il planque ses mains, on sait jamais. Julien et sa mère qui tricotent tellement vite que tous ses habits sont en laine. Même sa culotte. C'est pour ça qu'il se gratte les fesses à longueur de journée. Hugo, pas de chance. Non mais franchement, avoir un papa chauve qui a un cheveu sur la langue, c'est quand même pas de chance, non ? Puis il y a Emmanuel. Emmanuel qui est encore plus joli que sa mère. Et Léo pense souvent à Emmanuel. Léo, ce qu'il aime, c'est se plonger dans ses yeux bleus. Léo, ce qu'il aime, c'est observer le mouvement de ses cheveux à la récré. Et Léo, ce qu'il préfère, c'est quand Emmanuel prononce son nom.
Léo !
C'est le directeur. Il est juste à côté de Léo et le regarde avec étonnement. Faut dire que Léo est debout sur sa chaise, en équilibre instable. Il est retourné vers le mur, ses mains sont accrochées au cadre de la photo et ses lèvres s'opposaient à l'endroit où il y a... Il y en a deux qui suivent, ça fait toujours plaisir. En clair, il est en train d'embrasser la photo de sa classe, debout sur une chaise dans le bureau du directeur. Léo se rassoit, ça va crier dans les oreilles. Non ? Le directeur pose simplement sa main sur son épaule. Il a même un léger sourire. Puis il repart vers son bureau, s'installe derrière et continue de chercher dans ses affaires. Derrière la pile de cahiers, non. Dans sa trousse, non plus. Dans le cartable, encore moins. Puis soudain, le visage du directeur s'illumine. Il sort de son tiroir des cachets effervescents. Oui, la journée a été rude. Le petit type dans la main droite, avec sa main gauche, il tire et dévisse le capuchon en même temps pour l'ouvrir. Léo n'en revient pas. Le bruit, le geste, tout. Et tout comme sa mère lorsqu'elle prend ses cachets dans la cuisine. Il a beau lui répéter 15 fois que ça ne sert à rien de dévisser. Bah, vous savez bien, il suffit juste de tirer. Sa mère ne l'écoute pas. Le directeur fait glisser le cachet dans un verre d'eau. Le cachet prend son temps. Le cachet n'a pas mal à la tête, lui. Lui, il danse. Virevolte, fait des arabesques dans un sens puis dans l'autre. Côté pile,
ça plane.
Côté face,
ça glisse.
Côté pile,
ça swing.
Côté face,
ça fatigue.
Oui, effectivement, ça tire pour Léo. Ses paupières sont lourdes. Et derrière le verre, la tête du directeur devient floue. Côté pile,
ça plane.
Côté face,
ça glisse.
Côté pile,
ça swing.
Côté face,
ça fatigue.
Derrière le verre, la tête se transforme. Maman ? Léo est avec elle dans la cuisine. Elle est postée devant l'évier et son regard se perd à travers la fenêtre qui donne dans le jardin. Elle a un verre à la main et fait glisser un cachet dans l'eau. Pssst ! Tiens, il est drôlement pressé, celui-là. Aussitôt dans l'eau.
Aussitôt dissous,
aussitôt bu. Léo n'en revient pas. T'as la tête de sa mère qui vient de gonfler légèrement. T'as toutes les bulles du cachet effervescent qui sont montées en même temps. Du coup, poup. Maman, ça va pas? Sa mère ne répond pas et reprend un cachet. Pchut! Aussitôt dans l'eau.
Aussitôt dissous,
aussitôt dissous. Aussitôt bu. Ouh, la tête de sa mère continue de gonfler. Maintenant, elle ressemble au ballon comme à la fête foraine. Ouais, bah Léo se dit que si ça continue, sa mère, elle va vraiment s'envoler. Bon, c'est vrai que parfois, sa mère, elle plane un peu. Surtout lorsqu'elle prend ses cachets dans la cuisine. Dans ces moments-là, c'est bien simple, elle ne supporte plus aucun bruit, rien. Attends, interdiction de parler, interdiction de jouer, interdiction de courir, interdiction de faire de la musique, interdiction de chanter « Joyeux anniversaire », même si c'est le jour de ton anniversaire. Dans ces moments-là, c'est bien simple, elle n'a envie de parler à personne. Elle préfère ses plantes. Elle aime bien s'occuper de ses cactus. Ouais. Un cactus par pot, et puis un pot pour chaque enfant. C'est un peu sa deuxième famille. Et dans ces moments-là, de toute façon, c'est simple. Le père de Léo dit que ça sert à rien de l'embêter. Il faut la laisser tranquille, sinon elle risque de s'envoler pour de bon.
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un rapport intime entre la musique et le conte? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses de ça? De ce rapport qu'il y a entre musique et conte? J'imagine que la musique, ce n'est pas uniquement la décoration, l'illustration en fait, d'un texte. Hein. Ça va plus loin que ça, sans doute?
Pour moi, c'est effectivement... c'est deux façons de raconter des histoires. Ça m'a toujours... Enfin, je pense que toute personne qui écoute de la musique a des moments d'évasion, a des images, a des histoires, a des rêves qui peuvent se mettre en place à travers cette écoute. Et ce que j'ai trouvé très pertinent dans ce projet, en général, hein, conte et musique, mais aussi dans ce projet particulier musique baroque et récit, c'était qu'on travaillait sur la même essence des choses, c'est-à-dire ne pas, être dans l'artifice du visuel, sachant que le visuel est aussi important, mais que là, on travaillait vraiment sur comment transmettre une émotion, une histoire, des images, juste avec des mots et juste avec des notes et de la musique. Et du coup, je pense que la rencontre, elle est aussi forte par rapport à ça, c'est qu'on travaille finalement, la musique et les conteurs travaillent de façon assez proche sur le fait de faire voyager les gens à travers leur esprit et puis juste en véhiculant donc ces émotions.
Sur les spectacles auxquels tu participes, pas de décor?
Non,
très peu.
Et sur effectivement ce spectacle Cactus, on a fait le choix, malgré qu'on soit 7 sur scène, de pas utiliser de décor. C'est-à-dire qu'on utilise forcément un cadre noir dans les théâtres, mais sinon on n'est pas en costume. Enfin voilà, on a vraiment axé sur la lumière. Si le seul décor qu'on ait, ça a été vraiment un travail sur la lumière, une espèce d'habillage supplémentaire de l'histoire et de la musique.
Quand on est conteur, justement, qu'est-ce que tu penses de ces histoires de mise en scène? Est-ce que...
c'est le grand débat.
C'est the big question. Alors, donc, la mise en scène et le conte pour toi, est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un complément? Est-ce qu'on s'en passe? Qu'est-ce que tu en penses?
Je n'ai pas d'avis tranché. Je pense que ça dépend vraiment de la personne... Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le conte, c'est la recherche de soi aussi quelque part. C'est-à-dire que on arrive sur scène et on se raconte, mais on raconte avec ce qu'on est, nous. Alors par moments, on peut, certains, être un peu comédien ou acteur quand on fait certains personnages. Et du coup, pour moi, la mise en scène a son sens par rapport à ma personnalité, par rapport à mes ressentis. Mais voilà, quand on voit Gougo, quand on voit Michel Endenoeck, par exemple, on est complètement embarqué, alors qu'ils sont, on pourrait dire, immobiles.
Bougent pratiquement pas de leur chaise et voilà. Pourtant on part bien en voyage, quoi.
Exactement. Donc ça dépend vraiment, je pense, du conteur, de la façon de s'exprimer entre un Jérôme qui saute partout et puis voilà un Michel Neuc qui est très fixe. Mais on part dans les deux univers qui sont différents. Donc pour moi c'est pas tranché. C'est vraiment l'un peut aller avec l'autre ou on peut être fixe. Ça pose pas de souci.
Mais Léo ne baisse pas les bras. Il réfléchit. Élabore un plan. Ça y est, il a trouvé. Première chose à faire, motiver ses frères et ses sœurs. Pour une manifestation silencieuse. Les voilà tous dans le jardin, en train de tourner en rond, juste devant la fenêtre de la cuisine. Ils brandissent des pancartes le plus haut possible.
Maman, es-tu là ? 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 Maman.
Sauf qu'à peine 2 minutes après le début, ses frères et sœurs ont rassemblé les pancartes pour faire une tente. Ils ont mis une sorte de tipi, une sorte de couverture autour, ça fait une sorte de tipi. Et ils sont à présent où ça ? À l'intérieur, une plume dans les cheveux en train de jouer aux Indiens. Merci pour la solidarité. Échec total. Bon, allez, d'accord. Léo n'a pas dit son dernier mot. Se souvient de ce qu'il a appris à l'école. Les Indiens communiquent grâce, non pas à Internet. Les Indiens communiquent grâce aux signaux de...
La fumée !
Ah bah oui, merci quand même ! Ça, c'est une bonne idée ! Il en parle à ses frères et à ses sœurs. Devant la fenêtre de la cuisine, ils allument un feu. Léo s'approche avec une couverture. Il la pose sur le foyer et l'enlève rapidement. Un beau nuage se forme et monte dans le ciel. Quelques applaudissements et 2-3 hurrahs félicitent Léo. Bon, il recommence. Deuxième essai réussi. Bon, là, Léo continue. Prend de l'assurance dans ses gestes. Du sang Sioux coule à présent dans ses veines. Appelez-le nuage habile. Et alors qu'il était concentré sur les flammes, il lève la tête pour admirer le petit train de nuages qui monte lentement dans le ciel. Là qu'il sent une drôle d'odeur. Une odeur de cramé, une odeur de brûlé, une odeur de couverture qui brûle, enfin de couverture. De peur Léo la lâche, la couverture. Ah, la couverture, ça flamme. Jusqu'au dernier morceau. Conclusion. Le tissu chinois classé anti-feu brûle parfaitement.
Alors Bruno Lelevreur, qui est contre-ténor. Et là encore, ça a été une rencontre. En fait, tout mon parcours professionnel, que ce soit en musique ou en conte, ça a souvent été lié à des rencontres humaines. Voilà. Et Bruno, ça a été là encore une rencontre dans un chœur nantais, dans lequel je chantais là. Et il donnait des cours de technique vocale. Et puis à la fin d'un cours, il m'a demandé ce que je faisais comme métier. Je lui ai dit que j'étais conteur.
Et là, il a eu, pareil, le déclic, parce que lui, il travaillait sur déjà un spectacle et le fait de pouvoir faire découvrir à un plus grand nombre la musique baroque, et notamment aux plus jeunes.
Est-ce que tu peux situer ton travail de conteur dans un registre particulier, hein? On a parlé un petit peu tout à l'heure hors antenne de l'épopée avec ce grand monsieur qui est Bruno de La Salle. D'autres sont plutôt dans un registre de contes populaires, hein, comme Anikis ou comme Paul Latorre.
Moi, disons que je serais plutôt dans du récit de vie, enfin, sachant que le récit de vie, ça peut être assez flou aussi. Mais c'est vrai que je me considère plutôt comme auteur-interprète. Véritablement conteur, dans le sens où j'ai pas la gouaille de certains, j'ai pas la facilité qu'ont certains à raconter les choses comme ça, de façon voilà. Moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'être dans un cadre particulier pour pouvoir.
Alors ça, c'est très intéressant. Alors Laurent, c'est une question que je pose beaucoup aux conteurs, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, les arrière-boutiques, hein. Donc et toi Laurent, comment tu fais? C'est comment ça se passe?
Alors moi, je me perds aussi, mais je me laisse dériver dans... Aussitôt que j'ai trouvé un thème qui me touche, où je sens que je suis sur une piste qui me touche au plus profond de moi, que j'ai envie d'aborder, eh bien, je me laisse une période où j'ouvre toutes les écoutilles et je me balade entre balades virtuelles sur le net, entre écoute des émissions radiophoniques, télévisées.
Les bistrots, non?
Les bistrots, pas trop, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de matière dans les bistrots, mais je suis pas un grand fan des bistrots. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant que j'aille faire un tour par là-bas. Mais voilà, c'est plutôt...
Une imprégnation.
Ouais, me laisser vraiment. Je me souviens d'un des premiers spectacles qui pour moi est une véritable écriture, qui a été aussi la rencontre, encore une fois, une rencontre avec Bernadette Bidaud, qui me suit maintenant depuis quelques spectacles et qui m'a vraiment permis d'avancer dans mon écriture. Et sur ce spectacle, j'étais parti sur une thématique, et puis au fil de mes recherches sur internet, dans mes lectures, etc., eh bien, j'ai trouvé d'autres choses, et voilà, je me laisse cette possibilité d'évoluer dans ma réflexion sur cette passage de création. Et puis ensuite, il y a effectivement quand même pour moi un passage écrit, un premier jet. Puis retravail de cette écriture-là, et puis effectivement après la mise en bouche, la mise en scène quand il y en a.
Tu passes donc beaucoup par l'écrit, quoi. Enfin, à un moment donné, tu laisses les choses venir à toi,
ouais.
Et puis à un moment tu fais, quoi.
Ouais.
Tu voilà, t'inscris ouais. Ça. Sur le papier.
Exactement. Ouais, j'écris un peu. C'est un premier jet de d'un point où je suis rendu, de cet aboutissement-là. De cette première phase de création, j'ai besoin de poser les choses pour pouvoir abandonner. Comme j'ai une petite mémoire, je préfère mettre les choses par écrit. Je fais un vrai break et puis je reviens avec, entre guillemets, des yeux un peu plus neufs. Ce que j'aime bien dans ma façon de raconter les histoires, et puis dans mon écriture, c'est partir effectivement d'un environnement qu'on connaît, on va dire. Je suis très peu dans le merveilleux, je fais pas de mythe, voilà. Donc vraiment, ce qui me touche, c'est ces histoires qui sont là, qui paraissent banales, et puis tout d'un coup, on ouvre une porte, on se laisse glisser, on passe par un petit trou de serrure, et on rentre dans un monde incroyable. Et puis, c'est aussi une manière de voir dans le quotidien ce qu'il a d'extraordinaire. Et ça, je trouve que c'est un exercice qui n'est pas évident, qu'on devrait tous s'obliger à faire une fois au moins par jour. Et je pense que la société s'en
fout. De regarder de plus près le quotidien, hein, pour voir ce qu'il a d'extraordinaire.
Exactement,
en fait.
Exactement. Oui, tout à fait.
Tu es quelqu'un qui regarde beaucoup le ciel et les étoiles?
Oui, pas mal, oui. Effectivement.
Je m'en doutais un peu.
Mon père m'a dit un jour que j'étais en légère errance. Écoute-moi bien, fils. Aujourd'hui, quand on veut la lune, on n'est pas poète. On est cosmonaute. Mon papa. Je m'en viens juste d'allunir. Je regarde si je vois pas la maison. Et je prends le temps de t'écrire pour te dire que t'avais raison. Mon scaphandre, il est pas nouveau, mais il sent très bon la sueur. Je te salue de chez mon boulot, le front déposé sur ton cœur. La bande à collègues et puis moi, on est content d'être cosmonautes. Au début, on avait les foies, mais on s'est tous collés aux autres. J'étais pas vaillant au labeur, mais d'Armentière à Baïkonour, j'ai tenté de geôlier les heures, sachant que t'aurais tout fait pour. Aujourd'hui, dans ce grand bordel, j'essaie de gueuler en souriant et de tracer à tire-d'aile un dessin qui unit les gens. Mon papa, je m'en viens juste d'allunir. Dis-moi si t'aperçois ma flamme, le plaisir que j'ai à divertir. Et salut ma maman.
Le conte est une façon d'ouvrir des portes, que ce soit pour le conteur, mais aussi pour le public. Et du coup, dans ces portes-là, dans ces chemins à inventer, on a aussi l'avenir de chacun et peut-être, pourquoi pas, du monde. Donc, je pense que les histoires peuvent faire avancer les choses. Et le fait de dire, de s'emparer de sujets, d'avoir envie de raconter des choses. C'est une façon, à ma manière, de participer à ma pierre, à l'édifice de
prendre une part active, finalement, dans l'avancée.
Voilà, exactement. C'est presque, je dirais, le fait de monter sur scène, de dire, c'est aussi presque un geste politique, au sens large du terme. Et ça a son rôle dans nos sociétés actuelles, vraiment.
C'est dans cette mesure-là que tu te dis engagé. J'ai vu ça aussi en te concernant, que tu es un auteur, un conteur engagé. Voilà, ce serait ta façon d'être engagé, c'est d'être actif par la parole. Quoi,
oui,
c'est ça
ouais, exactement. Ouais. Voilà. Il y en a qui sont défenseurs qui s'impliquent complètement corps et âme, parfois au sacrifice même de leur famille, on voit hein, dans des engagements politiques qui sont très forts. Je dirais que ma manière de citoyen un peu modeste de m'engager, c'est aussi par la parole, par les choses que j'ai envie de défendre au travers des spectacles que je crée. Et je vois bien d'ailleurs les retours qu'on a, les retours publics, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de conteurs, c'est-à-dire que la force du conte, c'est aussi d'avoir un écho, encore une fois, politique, mais au sens large et intime, qui permet de faire réfléchir sur ce qu'on vit, sur le devenir d'une société, sur plein de choses. Pourtant, je peux vous dire que depuis quelque temps, Léo a du mal à s'endormir. Il n'arrête pas de penser à une phrase qu'a dit son père à sa mère un jour de colère. Oui, bah à force de ne pas voir les gens, on les oublie. T'entends? Alors une nuit, il s'est levé. Et puis, il est allé chercher dans le grand album de famille une petite photo qu'il aime bien. Elle n'est pas très bien cadrée, un peu floue. Mais on peut apercevoir sa mère avec un léger sourire. Il y a du mouvement. Autour de son cou, elle porte le foulard de soie qu'il lui a offert pour son anniversaire.
Bon, dis-moi, dans ce monde-là, très avec beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup, beaucoup de choses, l'économie du spectacle, l'économie du conte, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a moyen en ce moment de gagner sa vie, de faire sa carrière avec ce milieu-là? Tu es un conteur professionnel. Quelles sont les choses que tu rencontres, les difficultés éventuellement? Enfin, est-ce que tu peux nous dire un ou deux petits mots là-dessus?
Sur ma façon de procéder, enfin, déjà l'intérêt, c'est d'être sur plusieurs, sur plusieurs réseaux. Je pense que c'est important. Et il y a des réseaux qui sont effectivement plus typés compte, qui sont plus accessibles, donc plus faciles aussi pour vendre les spectacles. Mais il y a des réseaux plus type théâtre, salle, qui ont été déjà, habités par des conteurs, type Yannick Jolin en particulier, Gougou, etc. Je pense que de plus en plus, il y a des conteurs qui vont dans les salles de spectacle. Mais là où il pourrait y avoir des difficultés, je trouve, c'est par rapport à la vision des programmateurs qui ne connaissent pas forcément complètement cet art de la parole. Et qui ont une vision, parfois, un peu réduite de cet art-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas de décor. Et comme on est dans une société extrêmement visuelle, il suffit de regarder autour de nous, et aussi, il faut le dire, je trouve, à mon goût, peut-être un tout petit peu trop au sein des salles de spectacle. On a des spectacles qui sont très visuels, mais je suis aussi un grand... fan certains de ces spectacles qui sont très visuels. James Tirer, par exemple, pour moi, voilà, fait partie de ces artistes qui nous touchent au plus haut point et qui sont aussi beaucoup dans le visuel, mais pas que. Et du coup, en tant que conteur, quand on arrive pour essayer de rentrer dans ce type de réseau, je trouve que c'est parfois un peu plus difficile. Ouais. On est dans une recherche de nouveautés. Toujours, il faut toujours de la nouveauté. Et alors c'est intéressant pour faire avancer les arts en général, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession et une contrainte. Et je trouve qu'il y a des spectacles qui ne sont pas forcément nouveaux et qui peuvent très bien marcher. Alors soit on est dans la nouveauté absolue, ou soit on est dans le recyclage. Alors ça, c'est la grande mode. On le voit bien en musique, mais aussi en théâtre, sur les vaudevilles, les trucs. Alors, c'est bien d'avoir une transmission du patrimoine, non seulement en conte, parce qu'il y a des grands contes, etc. Mais je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et aussi laisser la place à des créations, mais qui ne sont pas forcément dans la nouveauté absolue de quelque chose de complètement décalé.
Thank you.
regardé sur Internet, il n'a rien trouvé. L'oiseau, l'oiseau, l'oiseau. Aujourd'hui, c'en est trop. L'école finie, Léo s'échappe. Erre dans la ville. Cherche, cherche l'oiseau. Il faut absolument qu'il le trouve. L'oiseau, l'oiseau, rouge feu. Vous avez vu un oiseau rouge feu? L'oiseau, l'oiseau. Il scrute le moindre indice. Tiens, un nom sur une carte. L'oiseau bleu, restaurant gastronomique. Menu confiance, 55 euros. Laissez-vous guider par les suggestions du chef. Non, c'est pas ça. Celui de Léo, il est rouge, rouge feu. Hé, hey, une devanture de magasin. L'oiseau fait son nid. Création de bijoux éclectiques. Encore raté. Hé, hey, une chanson dans une voiture.
C'est comme l'oiseau.
Non, c'est pas ça non plus. À cet instant, un autre chant attire l'attention de Léo. Cette fois-ci, c'est sûr, hein, c'est celui d'un oiseau. Et ça provient d'une fenêtre dont les volets sont fermés. Léo s'approche. Soudain, les deux volets s'ouvrent comme un rideau de théâtre, puis t'as une vieille dame qui apparaît avec un béret jaune visé sur sa tête. Oui, c'est pourquoi ? Léo explique qu'il est à la recherche d'un oiseau incroyable, un oiseau avec des plumes rouges feu. La vieille dame sourit. Derrière elle, deux oiseaux jaunes, puis une grosse affiche de foot. Ah, c'est pas ici, mon petit gars, non, ici c'est jaune. Jaune canari ! Allez, suis ton chemin, tu trouveras bien. Et Léo cherche l'oiseau, l'oiseau, l'oiseau. Passe devant le musée. Là, t'as une grande affiche. Exposition exceptionnelle avec plus de 150 espèces d'oiseaux différentes. C'est sûr, il est forcément là. Léo rentre dans le musée. Incroyable. Des oiseaux, t'en as partout. T'en as posé sur le sol, posé sur des tables, accroché au mur, t'en as suspendu au plafond, et puis t'en as de toutes les tailles, t'en as des petits rikiki, des moyens, des grands, des petites becs, des grandes plumes, des petites plumes, puis t'en as de toutes les couleurs, t'en as des verts, t'en as des oranges, et t'en as des violets, t'en as des bicolores, puis t'en as même... Hein? Rouge. Le gardien explique que c'est un cardinal mâle qui vit principalement dans l'est des États-Unis. Son nom scientifique ? Le Cardinalis cardinalis. Et il est même l'emblème de plusieurs pays. Seul problème ? Ni lui, ni les autres ne bougent. Vous avez deviné, ce sont tous des oiseaux ? Empaillés. Déçu, Léo sort. Il court droit devant. Il sent son cœur qui tape à l'intérieur et il court droit devant. Ça coule sur les joues de Léo, mais il court à toute vitesse, il court à n'en plus pouvoir, il court encore et encore, encore et encore, encore et encore. Puis bon, il s'arrête sur un banc. Il est dans un square. Bon, il y a un arbre, deux bancs verts, puis une poubelle. Mais sur l'autre banc, un homme est assis. Drôle d'allure. Léo observe son visage. Il remarque qu'autour de sa bouche, il y a des rides, mais elles font penser aux traces d'un fil. Comme si sa bouche avait été cousue. Drôle d'allure. Il tient un sac en papier, plonge sa main à l'intérieur. Puis il se courbe légèrement en avant et il jette des graines par terre. Il y en a d'autres aussi. d'autres avec des plumes flamboyantes. Des oiseaux que Léo n'a jamais vus. Léo cherche son oiseau aux plumes rouges feu. À cet instant, l'homme se redresse, tourne la tête vers Léo, il se regarde, puis soudain, l'homme se lève et s'en va. Tous les oiseaux s'envolent. Sur le banc, il reste le petit sac en papier. Léo s'approche, plonge sa main à l'intérieur. Il reste une graine. Il la saisit et file. Il court jusqu'à chez lui. Une fois dans le jardin, s'installe sur la balançoire. Il ouvre sa main et tend la graine vers le ciel pour l'oiseau. Puis il attend. Rien du tout. Bon, je dis pas, il n'y a pas deux ou trois avions qui sont passés au-dessus de sa tête. Il y a bien les nuages qui prennent une légère teinte rose-rouge. Léo, déçu, il jette la graine par terre. Mais là, à peine a-t-elle touché le sol qu'une plante se met à pousser. Une épine, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis dix, puis quinze, puis vingt, puis cinq, puis cinquante, puis cent, puis un petit cactus. Et un cactus qui se met à grandir, à grossir. Un cactus qui continue de grandir, puis de grossir, puis il continue encore. Il monte encore, il grossit, il grandit, puis carrément il devient la taille de Léo. Puis il continue de grandir, puis de grossir encore. Encore et encore, il monte, il grandit encore, et puis il dépasse la taille de sa maison. Il continue de grandir encore et encore, il pousse, il grandit, il devient carrément immense, carrément gigantesque. Un cactus avec des fleurs de toutes les couleurs. T'as des jaunes, des verts, des oranges, des violettes, puis t'as même des... Lorsque le cactus touche presque les nuages, Léo aperçoit l'oiseau rouge feu qui se pose au sommet. Oh qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez pas beaucoup d'idées aujourd'hui, non? On est dimanche, je sais, mais quand même. Ben oui, il escalade, il grimpe, bien sûr. Grimper, il va grimper. Léo s'approche du cactus, saisit les épines qui sont devenues grosses comme des branches, et puis il grimpe. Allez. Oh. Salut les coccinelles, eh, belle journée, n'est-ce pas? Arrêtez les hirondelles de me faire tourner la tête, là, vous allez me faire tomber. Là. Ah, salut les mouettes. Alors, il fait beau à l'ouest? Il fait beau? Oh, bah dis donc, c'est une bonne nouvelle, ça. Oh,
la famille canard qui va se faire dorer les plumes au soleil. Bah vous avez bien raison avec l'hiver qu'on a eu, allez, bon voyage. Et Léo grimpe, grimpe, grimpe encore. Et plus il grimpe, plus il y a d'épines. Et plus il y a d'épines, plus elles sont fines. Fines comme des aiguilles. Des aiguilles qui piquent ses mains, griffent son visage, déchirent ses vêtements, lui barrent la route. Mais Léo veut pas s'arrêter là, non, il veut aller jusqu'en haut. Alors il continue de grimper. Encore, il avance, il se bat, il court, encore et encore. Il va pas s'arrêter là, il grimpe mètre par mètre la distance qu'il sépare du sommet. Allez, vas-y, allez Léo, il avance encore et encore, allez, encore.
Il y a et il y a du beau monde en plus.
Ah, du beau monde. Ah, du beau. Parlons du beau monde.
Alors, bah, Bruno Lelevreur, dont on a parlé tout à l'heure, qui est contre-ténor, qui joue dans les plus grands ensembles baroques français, c'est-à-dire les Arts Florissants, Poèmes Harmoniques, qui tourne aussi partout dans le monde. Il va repartir à New York bientôt. Enfin bref, moi j'ai vraiment là-dessus, j'ai une chance.
Une pointure d'enfer. Ouais,
voilà, j'ai des grandes pointures à mes côtés, donc falloir que je lasse bien mes chaussures. et puis il y a donc deux chanteurs, hein, Bruno qui est contre-ténor, Sophie Patay, parisienne et qui soprane. Donc voilà, une voix pareille qui me bouleverse et qui est vraiment... Il y a un des chants, là, elle passe derrière moi quand elle chante. À chaque fois, j'ai des frissons dans tout le dos, c'est assez impressionnant.
Est-ce qu'elle le sait?
Oui, elle le sait. Et puis, après, il y a l'équipe des musiciens casse-cou. On a deux flûtistes qui sont Marie-Noël Viss et puis Françoise Defour. Et enfin, Julie Dessin à la viole de gambe et Thibaut Roussel au théorbe. Et ce qui a été vraiment formidable dans le travail qu'on a pu faire ensemble, c'est qu'ils ont accepté de casser aussi certains codes, hein, ou soit de l'opéra ou aussi de la musique classique et baroque en particulier, pour se laisser guider par les images que moi j'avais sur cette histoire. Et du coup, on a vraiment travaillé. Enfin, ce que je dis souvent, c'est pas un accompagnement. Ils sont pas là pour accompagner. On fait un spectacle ensemble. S'ils ne sont pas là, je peux pas faire le spectacle. Si je ne suis pas là, ils peuvent pas faire le spectacle. On a travaillé de façon très étroite, en amont et pendant la création, à trouver au plus juste les musiques qui correspondent aux images qu'il y a dans l'histoire. Et je me souviens d'une réflexion pour moi qui a été très juste et très touchante sur un festival de musique baroque au-dessus de Paris. Et les spectateurs sont venus après le spectacle et nous ont dit « c'est incroyable parce qu'on a l'impression que la musique a été écrite pour cette histoire. » Alors que la musique, elle a plus de 300 ans et que l'histoire, elle a même pas 2 ans. Donc pour nous, c'était vraiment un beau compliment de tout le travail qu'on a pu faire, de cette implication qu'ont eu et les musiciens et les chanteurs et moi en tant qu'auteur, auteur et interprète, sur le fait d'entremêler mots et musique, et que ce soit pas juste là en disant « c'est bien d'avoir un fond musical parce que c'est plus agréable pour le spectateur ». Non, non, c'est les morceaux qui ont été choisis ont un sens, vraiment, sont une continuité de l'histoire. Le récit laisse la place à l'histoire qui continue le récit. Moi, je reprends ce que raconte la musique, et voilà, c'est... Et je pense que cette complicité, non seulement à l'écoute, mais aussi scéniquement et au niveau humain de ce qui se passe sur scène, se ressent, et c'est souvent les retours qu'on nous en fait.
Quelque chose effleure la joue de Léo. Il entend un battement d'ailes. L'oiseau aux plumes rouges feu a pris son envol.
Tout mal à mort.
Léo entr'ouvre ses paupières. Quelque chose danse devant ses yeux, fait des arabesques dans un sens puis dans l'autre. Côté pile, ça plane. Côté face, ça glisse. Côté pile, ça swing. Côté face, ça fatigue. Léo reconnaît un cachet effervescent qui se dissout lentement dans un verre. Côté pile, ça plane. Côté face, ça glisse. Côté pile, ça swing. Côté face, ça fatigue. Et derrière le verre, t'as la tête du directeur de son école. Bon, Léo, allez, bah, on t'atteint. Léo tourne la tête. À travers la fenêtre du bureau du directeur, il aperçoit une silhouette. Autour de son cou, elle porte un foulard de soie rouge feu. Léo se lève et se précipite dehors.
Bon, Léo, Léo, tu viens, on t'attend, là.
C'est son père. J'arrive, papa. Jacques Prévert, j'écoute, le directeur à l'appareil. Oui. Ah, Léo, comment ça va? Bah, bien sûr que je reconnais votre voix depuis le temps, puis avec vos enfants maintenant. Alors comme ça, on est en retard. On a oublié sa fille à l'école. Bah, vous inquiétez pas, elle est là, là, dans mon bureau. Hein. Je veux de la flûte. Ah ouais, c'est ça. On vous attend. Allez, à tout de suite.
Écoute, Laurent, merci beaucoup. À une prochaine fois, et puis de très beaux projets pour toi et les équipes avec qui tu travailleras.
Ben, merci en tout cas, Charles, de ton accueil, et puis à une prochaine fois, j'espère.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à Laurent Carudel de nous avoir confié des extraits de son spectacle « Cactus », mis en scène par Bernadette Bidaud. Mille merci également à Anne de Kermarec pour le montage et au musicien Bertrand Ripoche pour la musique du générique. Au revoir à tous.
C'est pas pour dire, était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.